we may have lost a battle here today, but we're not going to lose this war.
Bonne fin de journée, tout le monde. Alors, les langues se délient. Il y a des gestes qui se posent, entre autres dans l'affaire Philip Bond, alors qu'il y a une victime qui a décidé qu'elle va porter plainte officiellement. On va y revenir, d'ailleurs, dans un moment avec ma collègue journaliste Fanny Lachance-Paquette. Mais aussi dans le monde du hockey, où il y a une nouvelle histoire de présumé viol collectif qui éclabousse encore Hockey Canada. On parle d'une agression sexuelle de groupe qui se serait produite en 2003. On va en parler tout de suite avec notre collaboratrice, la journaliste de la presse à la colline parlementaire à Ottawa, Mélanie Marquis. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir, Michel.
Qu'est-ce qu'on sait de ces nouvelles allégations concernant, justement, là, c'est une agression qui serait survenue? Et d'ailleurs, la police d'Halifax qui a confirmé ouvrir une enquête.
Oui, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que Hockey Canada a été informé jeudi soir de la part d'un journaliste sportif de TSN qu'il y avait des allégations encore, comme tu l'as dit. Ce serait survenu à Halifax en 2003, en marge du championnat mondial junior. Donc, on ignore là, combien de personnes seraient impliquées, combien de victimes aussi. Et donc, le service de police d'Halifax qui a été contacté par Hockey Canada a ouvert une enquête. Même chose pour ce qui est de la police de London concernant l'autre incident qui avait déjà fait surface il y a un peu plus d'un mois à London en 2018 en Ontario. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on
sait, Michel. On n'a pas de détails vraiment là, sur ce qui se serait passé du côté d'Halifax. Probablement qu'il y aura plus de détails au cours des prochains jours. Ces allégations-là, aujourd'hui, surviennent à peine 4 jours après qu'on ait appris l'existence d'un fonds spécial pour régler des dossiers, notamment liés à des agressions sexuelles du côté d'Hockey Canada.
Oui, exact. Lundi, c'est la presse canadienne qui en épluchant des dossiers de course s'est rendu compte que ce fonds-là, qui est un fonds de réserve qui est là pour dédommager des imprévus, était utilisé pour régler à l'amiable des histoires d'agressions sexuelles. Et mardi, le lendemain, donc le Globe and Mail nous apprenait qu'un joueur de l'incident de 2018 est entré en contact avec la victime présumée en lui demandant si elle avait porté plainte à la police, donc en essayant de la dissuader. Et la semaine se termine avec ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc, franchement, une autre semaine catastrophique pour Hockey Canada.
Oui. Hockey Canada, est-ce que l'organisation va pouvoir regagner de la confiance de la population? C'est ce qu'on verra. En tout cas, le premier ministre Justin Trudeau a exprimé son mécontentement de manière assez forte.
Oui, c'est de la grande question. Puis M. Trudeau, je pense, a exprimé en disant qu'il y a énormément de gens, de parents dont les enfants peuvent fréquenter des programmes d'Hockey Canada qui ont perdu confiance en cette institution-là, en ses dirigeants et qui s'inquiètent sur la culture qui s'est immiscée là. Est-ce que la confiance du public est encore là? J'imagine qu'on tâtera le pouls dans les prochaines journées, mais chose certaine, côté des politiciens, on est sceptiques.
Oui, hein. Est-ce que ça a été jugé satisfaisant? On a l'impression qu'ils sont vraiment pas au bout de leur peine, hein?
Non. Puis c'est pas terminé, hein, Michel, parce que la semaine prochaine, Hockey Canada encore va se retrouver sous les projecteurs. Il y a 2 journées d'audience du Comité permanent du patrimoine canadien, mardi et mercredi. Donc, on va entendre notamment la ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, et plusieurs dirigeants de Hockey Canada qui, la dernière fois, avaient offert une prestation très peu convaincante.
Rapidement, en terminant, Ottawa hausse le ton également après Hockey Canada. C'est Gymnastique Canada qui se voit geler son financement?
Oui, une autre affaire. Donc ça a été annoncé hier soir. La ministre Saint-Onge qui a gelé le financement de Gymnastique Canada, comme elle l'avait fait pour Hockey Canada, pour des motifs de même nature, donc la gestion des dossiers d'inconduite sexuelle.
Mélanie Marquis à Ottawa, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Première réaction par rapport à Philip Bond, c'est bien sûr qu'on est frustré, bien sûr qu'on trouve ça terrible, mais on est heureux, on est très heureux en fait que les victimes aient sorti. Et ça, c'est hyper important pour nous, que ces victimes-là puissent s'exprimer. Puis nous, comme compagnie, on ne tolère pas ça. C'est pour ça qu'on a une politique là-dessus et c'est pour ça qu'il n'était pas dans la programmation depuis 2-3 ans.
Le vice-président de Juste pour rire, Patrick Rozon, qui réagissait à notre micro hier sur les allégations qui visent l'humoriste Philip Bond et qui éclabousse à nouveau le milieu de l'humour, on n'a qu'à penser à l'affaire Gilbert Rozon, hein, qui a justement fondé le festival Juste pour rire. Il y a du nouveau depuis hier. Il y a une des 8 victimes, présumées victimes, qui se sont livrées à des journalistes de la presse, qui a été contactée par la police et elle envisage maintenant porter plainte officiellement. Fanny Lachance-Paquette a les détails.
Lisa Matthews, qui affirme avoir été victime d'actes sexuels forcés de la part de l'humoriste, a l'intention d'aller porter plainte au service de police de la ville de Gatineau. Elle dit qu'elle avait tenté d'aller porter plainte en 2007 et qu'elle avait été déçue de l'accueil qu'elle avait reçu de la part des policiers. Lisa Matthews m'a dit aujourd'hui que d'autres présumées victimes étaient venues à elle et que possiblement elles auraient l'intention, elles aussi, de sortir de l'ombre et même de porter plainte. Du côté du service de police de Gatineau, sans nommer qui que ce soit, on me dit être entré en contact avec l'une des présumées victimes et on l'invite à venir porter plainte au service de police. On dit que cette fois, ce sera différent qu'en 2007.
Évidemment qu'en 2007, l'air social n'était pas le même, on s'entend. La police demeure en tout temps un reflet de la société et c'est certain que la police évolue également en même temps que la société dans laquelle elle œuvre. Hein, faut comprendre ce phénomène-là. Et oui, en 2022, on est vraiment dans un air social où la dénonciation, où l'encadrement de la victime est super important. Et donc, on fait ça, nous. On encadre la victime, elle est prise en charge. Nos enquêteurs qui sont spécialisés en agression sexuelle vont s'assurer, évidemment, du volet d'encadrement avec nos partenaires tels que le CAVAC.
C'est un autre scandale sexuel qui éclabousse le milieu de l'humour après les cas très médiatisés de Gilbert Rozon et Julien Lacroix. Et maintenant, bien, la bonne conduite, ça fait partie de la formation des futurs humoristes. La directrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer, nous dit que depuis 2007, ce qui correspond avec le début du mouvement Moi aussi, bien dans le cours de gestion de carrière, il y a tout un volet maintenant qui est pour la sensibilisation aux violences sexuelles. L'école a d'ailleurs une politique qui est détaillée à ce sujet. Elle vise notamment à maintenir un milieu où tous les membres de sa communauté se sentent en sécurité et à l'abri de toute violence à caractère sexuel, laquelle n'est aucunement tolérée sous aucune forme. Et on veut aussi offrir des activités de prévention et de sensibilisation, ainsi que des activités de formation obligatoires pour les membres de la communauté étudiante et de tout son personnel. Il y a même une travailleuse sociale qui est présente un jour et demi par semaine pour rencontrer les 36 étudiants. Alors vraiment, le milieu de l'humour qui met aussi des mesures en place pour s'assurer que des cas comme celui de Philippe Bande, bien, il n'y en ait plus à l'avenir dans le milieu de l'humour.
Grosse nouvelle aux États-Unis cet après-midi dans le procès de Steve Bannon. L'ex-conseiller de Donald Trump a été reconnu coupable d'entrave au travail du Congrès au terme de seulement 3 heures de délibération. On fait le point avec notre collaboratrice spécialiste en politique américaine, Valérie Beaudoin. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Michel.
Bon, pour ceux qui l'auraient oublié, rappelle-nous un peu là, qui est Steve Bannon et de quoi exactement il a été reconnu coupable.
Oui, Steve Bannon, ancien conseiller, ancien stratège très près de Donald Trump. Je l'appelle un peu l'architecte derrière la victoire de 2016 de Donald Trump, qui est devenu président des États-Unis, brièvement conseiller aussi à la Maison-Blanche pendant quelques mois. Il est resté en contact avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui est associé beaucoup plus à l'extrême droite aux États-Unis. Il avait d'ailleurs créé un média en ce sens, Breitbart News. Et on l'accusait de quoi? De refuser de coopérer avec ce comité qui enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier. On voulait quoi? On voulait avoir des messages, des échanges, des documents entre lui et l'ancien président Trump parce qu'ils avaient gardé contact. Et également, on voulait qu'il témoigne. Il a refusé en disant être sous le privilège exécutif, là, en fait, que le président lui avait dit des choses en confidentialité. Et comme il avait déjà travaillé à la Maison-Blanche, bien, il ne devait pas nécessairement se confier à ce comité.
Il va connaître sa peine en octobre. Est-ce que ça pourrait influencer certaines personnes, selon toi, à témoigner?
Oui, parce que quand même, minimum de 30 jours de prison, pour moi, ça peut être un incitatif de certaines personnes qui hésitent à témoigner en se disant...
Ça va donner un exemple.
Non, mais ça change. Oui, c'est ça. En se disant, les gens se disent peut-être qu'il n'y aura pas de conséquences juridiques. Pourquoi est-ce que j'irais m'incriminer là-bas? Pourquoi est-ce que je voudrais collaborer quand je suis quelqu'un qui est très près de l'ancien président? Là, on peut voir les conséquences concrètes. Il ira en appel, c'est ce qu'il a annoncé, mais quand même, sinon, comme tu l'as mentionné, on va savoir sa sentence au mois d'octobre prochain.
Bon, justement, en parallèle, se déroulait la dernière journée d'audience publique pour la saison estivale de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier. Qu'est-ce qu'on a appris de plus aujourd'hui?
On a confirmé certaines choses. On a appris que Donald Trump avait refusé, dans un discours préenregistré, de dire que l'élection était terminée. Hein, il refusait catégoriquement de dire ça. Il voulait dire, oui, bon, il y a eu la certification des résultats, qui, je rappelle pour les gens, le 6 janvier, c'était la certification de la victoire de Joe Biden, mais il ne voulait pas dire qu'il avait finalement perdu Donald Trump. Ce n'était pas dans son langage qu'il voulait utiliser. On a aussi parlé des membres des services secrets qui ont appelé des membres de leur famille pour leur dire au revoir en craignant pour leur vie.
Ah,
des
oui,
gens
hein?
Protégeaient Mike Pence à l'intérieur du Congrès lors de l'attaque. Donc, c'est certaines choses comme des choses comme ça qu'on a appris et qu'il n'avait rien fait aussi pendant plusieurs heures pour arrêter la violence.
Il y avait beaucoup d'inquiétudes. En 15 secondes, dis-moi si on résume très rapidement les audiences des derniers mois. Tu t'y prends comment?
Donald Trump savait qu'il n'avait pas gagné l'élection. Il a choisi de rien faire. Des collaborateurs près de lui savaient que ça allait dégénérer. Ils ont choisi aussi de rien faire. Et j'ai très hâte de voir en septembre, quand on va recommencer les audiences, comment tout ça va se terminer.
Et on va suivre ça ensemble. Merci beaucoup, Valérie. Bye-bye.
Merci. Bye-bye.
La SQ demande l'aide du public pour retrouver Dave Gingras-Godet, 37 ans, qui s'est évadé de l'établissement de détention de Québec hier soir vers 20h30. Le prisonnier a réussi à s'évader lors d'une sortie dans la cour extérieure du bâtiment avec l'aide de complices. Il portait un T-shirt noir, des jeans pâles lors de son évasion. Bon, c'est aujourd'hui que commencent les vacances de la construction pour des milliers de Québécois. Et c'est aussi le signe qu'on arrive bientôt à la moitié de l'été, déjà, en effet. Évidemment, ça va amener son lot de déplacements sur les routes de la province et la patience sera de mise dans vos activités des deux prochaines semaines. Louis-Philippe Bourdeau nous présente cette tradition estivale en 5 points.
Est-ce que vos vacances débutent ce week-end? Eh bien, il y a une chance sur quatre que votre réponse à ma question soit positive. On estime qu'il y a souvent plus de 25 % de la main-d'œuvre québécoise qui est en vacances lors de la même période. Cette année, la Commission de la construction du Québec a transmis 182 000 chèques de vacances aux travailleurs.
On la mérite, ça. Je peux vous dire qu'on la mérite bien. On travaille fort, on fait plus d'heures, on fait des heures, on fait de l'overtime, on la mérite. On est content.
Parlant d'argent, les travailleurs de la construction ont reçu cette année 553 millions de dollars en chèques de vacances. C'est 50 millions de plus que l'an dernier, une augmentation qui coïncide avec l'importante reprise dans l'industrie de la construction après une année 2020 marquée par la pandémie. Au total, ce sont près de 200 millions d'heures de travail qui ont été effectuées.
En 2021, on a enregistré là, une hausse de l'activité historique. Puis les derniers chiffres là, pour 2022 nous laissent croire que cette hausse-là va se poursuivre. Là.
Pour la petite histoire, les vacances de la construction, c'est une tradition vieille de 50 ans qui a été implantée dans les années 70. L'objectif était simple, tous les acteurs de l'industrie s'arrêtent en même temps pour ensuite reprendre le travail sur les chantiers de manière efficace. Elles sont obligatoires en vertu des conventions collectives, sauf certaines exceptions comme des travaux d'urgence, de génie civil ou encore pour certains employés de la voirie.
En fait, on compte plus de 190 000 employés travailleurs en fait, dans l'industrie de la construction. On estime que 80 % d'entre eux là, sont en vacances durant cette période-là.
Et qui dit vacances de la construction dit inévitablement pas mal de trafic à l'horizon. Si on se fie au plus récent sondage de CAA Québec réalisé au printemps dernier, il y a près de la moitié des vacanciers qui devraient encore voyager dans la province malgré la levée des mesures dans les aéroports. Mais avec le prix de l'essence et le mot « inflation » sur toutes les lèvres, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce portrait?
C'est sûr qu'avec le prix du gaz et tout qui a augmenté, c'est sûr que ça a un peu changé, mais on a quand même des bons plans.
Bien, c'est sûr que certaines personnes ont décidé quand même de changer leurs plans en voyant justement le chaos dans les aéroports. Certaines personnes n'ont pas obtenu leur passeport à temps. D'autres personnes aussi ont vu le coût de la vie augmenter assez rapidement et ont peut-être décidé là, de changer leur plan de voyage. Quand on a posé la question aux vacanciers, là, est-ce que le prix de l'essence va influencer votre décision de prendre des vacances ou non? On appelait ça un impact marginal sur les intentions de voyager.
Et avec autant de monde sur les routes, les policiers seront nombreux à surveiller vos déplacements. L'an dernier, il y a près de 20 000 constats d'infraction qui ont été émis en 2 semaines, la majorité pour des excès de vitesse. Plus de 300 personnes ont été arrêtées pour conduite avec facultés affaiblies et 11 décès ont été comptabilisés. La prudence est donc de mise.
Et il fera chaud en ce début de vacances à construction. Les avertissements de chaleur se poursuivent, entre autres à Montréal, où on pourrait bien connaître une canicule. Environnement Canada prévoit en fait que toute la fin de semaine, les températures atteindront les 30 degrés le jour et descendront pas en dessous de 20 degrés la nuit. Ça devrait se rafraîchir dans la nuit de lundi à mardi. Marie-Claude Léonard devient officiellement la nouvelle directrice générale de la Société de transport de Montréal. Madame Léonard occupait le poste de manière intérimaire depuis le départ à la retraite de Luc Tremblay, qui a été en poste pendant 8 ans. Parmi les défis qui l'attendent, bien, Madame Léonard devra notamment retrouver la clientèle d'avant la pandémie et poursuivre l'électrification des autobus. Organiser la visite du pape à Québec, ben, c'est déjà tout un défi, mais imaginez le faire à distance, en moins de 2 mois. C'est un travail colossal. L'équipe nationale de la visite papale travaille actuellement sur les derniers préparatifs en vue de l'arrivée du pape François. Et c'est un véritable sprint. Mon collègue Simon Bourassa en a discuté avec un des principaux organisateurs.
La guerre ne peut pas être quelque chose d'inévitable.
Comment ça se passe logistiquement, l'organisation d'une visite papale? Parce que je comprends qu'il y a la portion Québec, mais le pape, évidemment, va aller ailleurs au Canada. C'est un concert national d'organisation pour une visite comme ça.
Ce qu'il y a vraiment de spécial pour l'équipe nationale, c'est qu'il n'y a pas de QG. Il n'y a pas de quartier général à aucun endroit. Alors, c'est sûr que la COVID a fait qu'on a développé des manières de faire en télétravail. Et là, on le vit vraiment. Là. Ce qui fait que le QG de la visite papale, c'est plein de bureaux comme ça, un peu partout au pays, avec des pôles principaux autour d'Edmonton, puis de Québec. Bien sûr, au Nunavut aussi. Chaque minute compte, parce que je le redis souvent, une visite papale, habituellement, c'est 72 semaines de préparation. Nous, on le fait en 8 semaines. Depuis que je suis arrivé à Québec, on m'a demandé d'être en relation avec les différents peuples autochtones. Puis c'est tellement un privilège. Moi, j'apprends à connaître des personnes. Il y a des amitiés qui se tissent aussi. Puis je l'entends souvent de nos alliés autochtones, le fait que c'est le début de quelque chose. C'est vraiment pas la fin, un aboutissement d'un processus. Là. Les excuses du pape François en sol canadien permettent de débuter quelque chose.
Qu'est-ce qui est le plus complexe à organiser et à coordonner dans la visite du pape? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que ce sont les activités? Est-ce que ce sont les déplacements?
Le plus complexe, c'est vraiment le fait que dans un si court laps de temps, on doit mettre tant de personnes ensemble et à un moment de l'année, fin juillet, vacances de la construction, où il y a pénurie de main-d'œuvre, et donc d'assembler une masse critique de bénévoles, parce qu'il faut dire que c'est une organisation principalement bénévole.
Vas-tu être de ceux qui accueilleront le pape à l'aéroport? Ton rôle, toi, après les réunions Zoom et les multiples rencontres virtuelles, il va se décliner de quelle façon?
Mon rôle sera zéro protocolaire. Je vais être, je pense, avec mes amis autochtones. Pour m'assurer de cette rencontre-là, je vais être avec eux. On est par les réseaux sociaux, le téléphone, puis là, on va pouvoir comme se rencontrer au même moment que l'on rencontre François ensemble.
Le coup d'envoi de la programmation extérieure de Juste pour rire a eu lieu hier et pour la première fois en fait en 3 étés. Il faut se le rappeler, la place des festivals s'est animée. Hein? Ça sera comme ça pour 10 jours de festivités humoristiques. On y présentera notamment un spectacle, à grand déploiement, qui souligne les 40 ans de l'événement. Jérôme Scalia y a assisté hier.
Bien, ce qui est intéressant d'un 40e, c'est qu'on regarde ce qu'on a fait dans le passé, parce qu'on y rend hommage, hein, ça fait partie du festival cette année, mais on regarde aussi le futur. Que Juste pour rire devienne le grand festival, la mecque comique où tout le monde, issu de n'importe quelle communauté, diversité, vienne et se sente bien, c'est ça notre but. C'est toujours difficile d'organiser un événement. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les coûts qui augmentent, ça a été plus difficile. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir les artistes et tout le monde qui sont contents. Fait que, est-ce qu'il y a des difficultés? Toujours. Organiser un événement, c'est toujours ça. Mais on finit par s'en sortir, puis là, on est là, enfin. Là, présentement, à peu près 90 % de mes salles sont pleines. Et là, on commence à faire ça à l'extérieur. Je regarde un peu, ça va falloir prendre des images. Il y a déjà beaucoup de monde qui s'en viennent. Sincèrement, je pense que l'inflation, elle est là, mais je pense que les gens gardent leur montant pour le divertissement. Puis, bien, s'ils n'en ont pas assez, ils viennent dehors. Puis s'ils en ont assez, ils vont en dedans puis ils choisissent. Puis notre but à nous, c'est de faire une programmation éclectique pour toucher tout le monde. Hein. Des 7 à 77 ans, j'ai Annie en comédie musicale pour les familles. J'ai des shows gratuits pour la famille. J'ai des shows en salle plus niche comme le Rose à soirée d'encore jeune ou les galas juste pour rire. J'ai Zoo Fest. Fait que le but de Juste pour rire, c'est ça, c'est de toucher tout le monde. À plein de prix différents. c'est une programmation complètement sautée. Okay? Parce que ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a deux grandes scènes. Okay? La première est sur l'esplanade de la place des festivals, où à chaque soir, il y a des spectacles à 19h, mais à 21h, il y a un grand spectacle. C'est un peu mon rêve de faire une espèce de dommage au Bellagio avec un grand show dans des fontaines, mais ça s'appelle 40 ans de vrai fun. Il y a 35 artistes, humoristes, danseurs, chanteurs, tout en musique. Un grand show d'une heure et demie qui rend hommage à Juste pour rire tous les soirs, 21h. Et sur la grande scène, scène Beneva, donc, c'est toutes des créations complètes qu'on a créées. Ça va faire du bien d'avoir tout le monde qui vienne participer puis rire, puis on en a besoin, là, après 2 ans de pandémie.
Plus d'une centaine de nageurs plongeront dans les eaux du lac Saint-Jean au cours des prochains jours dans le cadre de la traversée internationale du lac. Des athlètes provenant de différents pays vont s'affronter dans des courses en eau libre. Il s'agit d'un retour complet pour l'événement qui avait été, bien sûr, mis en pause là, en raison de la pandémie. Et c'est aujourd'hui que débute la finale des Jeux du Québec, cette 55e édition qui se déroule à Laval jusqu'au 30 juillet. Pas moins de 3 300 athlètes de 19 délégations au Québec croiseront le fer dans 17 disciplines. C'est l'ex-plongeur Alexandre Despatie qui est le porte-parole des Jeux cette année, lui qui s'était d'abord débarqué en 93 à Bécomo. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
Grosse signature aujourd'hui. Oui. C'est dans le cadre, bon, bien sûr, entourant la guerre en Ukraine. Entente qui a été signée entre l'Ukraine et la Russie.
Oui. Entente inédite entre deux pays en guerre sur l'exportation des céréales ukrainiennes. On sait qu'il y avait un blocage sur l'exportation de ces céréales-là et ça affectait plein de pays qui souffraient encore plus de famine. Il y a certains pays où on n'avait même plus assez de pain. On limitait la vente de pain tellement il manquait de farine. Là, il y a eu cette entente-là qui a été signée en Turquie avec l'aide des Nations Unies. Le Canada pourrait contribuer justement à acheminer des céréales de l'Ukraine vers d'autres régions du monde. Mais là, déjà, l'Ukraine, dans les dernières minutes, dit qu'elle craint que la Russie ne respecte pas l'accord et dit même avoir observé qu'on détruit des cultures de céréales actuellement. Ouais. Donc, il va falloir surveiller tout ça. On a un invité, John Craddock, qui est expert en chaîne d'approvisionnement.
Et tu reviendras également sur Hockey Canada. Merci beaucoup, Étienne. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. À ceux qui commencent leurs vacances pour les 2 prochaines semaines, vacances à construction, bonnes vacances, bien méritées. Soyez prudents sur les routes. Pour les autres, on se retrouve lundi 17h30.